En quelle année avez-vous découvert PFM ?
Ah, en quelle année j'ai découvert ? C'est une autre paire de manches, ça, comme question. J'ai découvert PFM tout petit, moi, en fait. Parce que mon papa, il a fait partie des gens qui ont participé aux toutes premières heures de PFM. Est-ce qu'il était fondateur, etc. Ma mémoire est un peu défaillante, donc je ne peux pas répondre précisément à quelle année j'ai découvert, mais tout petit, quoi. Donc, je suppose la création, c'est quelle année 81, ben donc en 81, j'ai dû entendre les premières bribes de cette radio qui était libre à l'époque, enfin qui l'est toujours, mais qui était pas encore déclarée, je pense, puisque c'était juste, ça a dû débuter, l'histoire de PFM, elle a dû débuter avant la libéralisation des ondes, quoi. Puis ensuite, ouais, j'ai été amené au fur et à mesure des années. En 81, j'avais 7 ans. Donc le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est que je pense que je venais de rentrer au collège et les locaux, ils étaient situés encore place de la Vacquerie. Et mon papa, il faisait une émission qui s'appelait Les Nouvelles du Tiers-Monde, qui était une émission qui pourrait ressembler à ce que sont les émissions du monde diplomatique maintenant. C'est beaucoup, c'était un militant tiers-mondiste extrêmement engagé. Et donc, c'était essentiellement une émission d'information sur les pays en voie de développement, leur actualité, les actualités économiques. Et le souvenir précis que j'ai, c'est que je me vois encore tout petit. Il avait un technicien, c'était pas son truc, la technique. Et j'étais comme ça. Enfin, ça se voit pas à la radio, mais j'étais un peu à niveau des platines ou de la console technique. Et je regardais. Et il avait une particularité, mon père, c'est qu'il disait beaucoup « eux ». Et donc, c'était le gimmick, quoi, quand on rentrait à la maison et tout. « Maman, il a dit 32 fois « eux », papa, il a dit 32 fois « eux » et tout. » Et donc, je pense que ça l'énervait peut-être un petit peu. Mais bon, c'était une fierté, hein, quand même, pour moi, d'aller voir mon père faire son émission de radio. Au-delà de son engagement associatif et militant, c'était une aventure... ouais, incroyable pour un gamin d'aller voir quelqu'un qui parle dans le micro et tout. Voilà, donc mes premiers souvenirs de Radio PFM, ils remontent à cette époque-là.
Justement, j'imagine que vous avoir vu votre père devant le micro, ça a dû vous donner un peu le goût de la radio. Et donc, à quel âge vous avez quand vous avez commencé vos premières émissions, en fait ?
Et ben en fait, entre cette époque-là et l'époque où je rentre à la radio, il se passe tout un temps où j'ai pas de rapport direct avec cette radio. Et puis un jour, je rencontre Bernard à un concert. Ça devait être mon premier concert d'ailleurs. C'était Jean-Louis Aubert, qui d'ailleurs je pense que PFM était partie prenante de l'organisation du concert. C'était Jean-Louis Aubert au Casino. On discute, il me demande des nouvelles et puis il me dit pourquoi tu ferais pas de la radio, quoi. Faut savoir qu'entre temps mon papa il a eu un grave accident de la route, en fait, et donc j'étais plus amené à la côtoyer directement, quoi. Donc je sais même pas si j'écoutais encore, quoi. Bien sûr, il y avait ce souvenir de ces années où lui faisait encore de la radio. Et donc quand Bernard il m'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. Je commençais à m'intéresser vraiment à la musique. Moi, mon domaine, c'était plus les musiques, quoi. Et puis, j'ai fait le parcours du combattant de tous les gens qui rentrent à la radio, surtout quand c'est piloté par Bernard, quoi. Une formation avec des exercices, un premier temps d'antenne, les maquettes, les machins, et puis un jour, la grandeur... le passage en direct, quoi. Et en fait, c'est un peu vieux, donc enfin, un peu vieux, ça date quand même. J'avais 16 ans, hein. Je pense que j'étais au collège, 16 ans, je sais plus quel âge de. Ça doit être 3ème, 4ème, 4ème ou 3ème, quoi. Je pense que c'était 3ème. Et donc, il y avait en même temps un autre jeune, le fils d'un animateur radio aussi. Mais le fils de cet animateur, son papa, il faisait une émission qui s'appelait Magic Bus. Et donc, j'ai commencé ma première émission. Je pense que Bernard, il avait dû nous proposer de faire un truc ensemble. Et donc, j'ai commencé ma première émission, ça s'appelait Rockin' Chair, avec Pierre-Henri Roudevitch. Et ouais.
Et ça ressemblait à quoi les premières émissions au Rocking Chair? Il faut dire que c'est une émission aussi qui a duré une paire d'années, parce que moi je m'en souviens aussi. Ouais.
Eh ben, ça ressemblait à un truc. Au début, c'était hésitant, quoi. C'était vraiment un truc. Bon, en plus, Bernard, il était quand même assez exigeant sur les premières émissions. Il fallait que tout soit écrit. Enfin, et donc, bon, c'était assez. Assez dirigé, quoi. C'était bien, en fait. C'était plutôt, donc c'était une émission qui avait pour vocation de parler des nouveautés musicales. Faut se rappeler quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de fonds discographiques à la radio, quoi. Donc petit à petit, bon, j'achetais quelques disques, mais bon, quand on est lycéen ou étudiant, enfin, ou collégien, on n'a pas des 1000 et des 100 pour investir dans les disques. Il fallait se démerder. Il y avait bien la médiathèque d'Arras. Et en même temps, l'émission, elle avait vocation à parler des nouveautés rock, pop. On était à cette époque-là, l'émergence de ce qui s'est appelé le rock indé, quoi. Ça existait avant, hein, c'était New Wave, Cold Wave, mais c'était. Enfin, tout le monde rapproche ça de l'émergence des Pixies, etc., les premiers numéros des In Rock et tout. Une sorte d'émergence d'un phénomène musical nouveau en France, quoi. Moi, j'étais dedans, j'avais l'âge. Grâce à des cousins qui étaient quand même bien branchés musique, je récupérais des disques et puis m'ont amené dans ce délire-là. Et donc, c'était plutôt une émission de rock indé, quoi, ce qu'on appelait de rock indé à l'époque, quoi. Et petit à petit, bah, je me suis démerdé pour trouver les disques, quoi, la matière, la nouveauté, grâce à Dominique Aria, quoi, un autre instigateur, inspirateur, quoi, qui est toujours en poste à la FNAC. Faut que vous l'interrogiez, vraiment. C'est un personnage qui n'est pas directement animateur, mais qui a navigué dans l'histoire de Radio PFM depuis bien plus longtemps que moi. Et donc lui, c'est un vendeur de la FNAC et il avait la possibilité, je pense qu'il l'a toujours, de sortir des nouveautés pour écouter. Et puis j'ai sympathisé avec lui. Et puis, je sais pas, ma tête, elle devait lui revenir. Ou le fait que j'avais envie de faire le truc, quoi, de me bouger. Et donc, il est venu participer à l'émission. Ou alors, il me ramenait des disques que je copiais sur cassette. Tu vois, à l'époque, c'était quand même un peu old school, quoi. C'était la cassette. C'était le début du CD. Enfin, je pense, hein, que c'était le début du CD. Puisque j'avais... C'était quoi, 80... Enfin, je sais pas, on est en 2006. Moi, 16 ans, ça fait combien 96, 88, ça devait être l'émergence du CD. Enfin, il commençait à avoir le basculement vinyle CD, quoi. Donc, c'était les premiers CD et tout. Et puis, petit à petit, je me suis démerdé, quoi. Fallait se démerder de toute façon. Et c'est le but, c'est le principe de cette radio aussi, quoi. C'est un moyen aussi de faire des trucs. Pour moi, c'était fondateur, hein, vraiment. Non seulement c'est lié à une histoire personnelle, familiale, mais en plus, pour ma vie personnelle, c'était une expérience fondatrice. Parce que c'est le premier projet que j'ai vraiment monté et sur lequel je me suis acharné, quoi. Enfin, je voulais réussir mon truc. On ne savait pas, nous. Hein. Je ne sais pas si on sait d'ailleurs maintenant sur nos... Je dis notre radio parce que je m'y sens toujours partie prenante, même si j'y anime plus d'émissions directement. Mais on ne savait pas qui nous écoutait. Donc, on faisait le truc, quoi. Et puis à Arras, c'était quand même morne pleine en matière de musique actuelle, etc., quoi. Donc, il y avait un peu de retour. Et puis après, ben, on en parlera, mais je me suis investi dans le fait qu'il fallait une discothèque dans cette radio, quoi. C'était une radio associative, pluridisciplinaire, sans pub, c'est vachement important. Mais c'était moins musical que ça ne l'est maintenant, quoi. Parce que c'était une sorte de génération qui a basculé. Moi, j'ai fait partie de cette génération, je pense, qui a fait le basculement, quoi. C'est pas pour dire que j'ai fait quelque chose, mais je faisais partie de cette génération qui a investi à fond dans la musique, parce que c'est devenu plus démocratique, machin. Et à l'époque, il y avait des salles qui se créaient grâce à Jack Lang, etc. Plus de concerts, plus de renouveau dans la musique. Et donc, je pense que j'ai fait partie des gens qui ont eu envie de s'investir dans la radio pour que ça devienne une radio avec une programmation musicale qui soit un peu plus dans la couleur du temps, quoi. Bernard, il m'en veut pas, hein, Bernard. Mais bon, j'ai eu des discussions longues et animées, quoi. Je sais pas, peut-être que...
Justement, on a peut-être une question, parce qu'on en a parlé un peu aussi avec Olivier qui anime Easy Rider. Il nous disait qu'avant... Avant l'arrivée de cette génération, hein, les émissions Easy Rider, Faster Pussycat, Rockin' Chair, et bon, sur PFM, il passait pas mal de Genesis. Donc, Donc il y a bon, ce décalage musical, mais il y a aussi est-ce que tu as senti aussi un décalage entre les origines militantes de la radio et puis cette orientation un peu plus musicale peut-être que cette génération a apporté? Est-ce qu'il y a eu des clashs là-dessus lors des réunions?
Ben, moi non, moi c'était impossible qu'il y ait des clashs. Pas parce que je suis quelqu'un de discipliné et je suis plutôt une grande gueule et je dis ce que j'ai à dire, mais de par mon histoire et le fait que mon père était vraiment engagé dans ce militantisme, consciemment ou inconsciemment, je partageais ses valeurs. Et en plus, donc j'y adhérais, quoi. Même si tout ça pouvait me sembler un petit peu distant par rapport à mes préoccupations, quoi. Ceci étant, ces valeurs-là, elles ont toujours été, pour moi en tout cas, transmises. Surtout de la part de personnages hyper importants, qui sont aussi des pères, je le dis, hein, ça pourrait être psychanalytiquement à analyser, mais j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, je me suis posé les questions que je devais me poser. Le fait que le père fondateur, Jean Pascalini, soit le fil conducteur de cette radio, y a l'esprit du militantisme, mais au-delà de l'esprit du militantisme, c'est la vie associative, quoi, la vie de cet outil. Parce que c'est un outil, en fait, la radio, c'est un moyen d'expression, c'était un moyen pour moi aussi de faire un projet plutôt que de zoner. J'aurais pu faire des conneries ou devenir un lycéen basique, standard. Non, moi, c'était ma vie, quoi. Hein. C'est devenu ma vie, la radio, à l'époque de mes années lycée. Et ça fait partie des choses qui m'ont sauvé, je pense vraiment, quoi, de différentes difficultés que j'aurais pu rencontrer. Sur lesquelles, en tout cas, il était probable que je les rencontre, quoi. Donc, pour ça, je suis plus que reconnaissant, quoi. C'est la place que Jean et Guy ont pu occuper dans la vie de cette radio, elle est fondamentale, quoi. Il y a eu des débats, j'ai fait partie du conseil d'administration longtemps, mais sur la question du militantisme, il n'y a jamais eu d'aspect doctrinaire, quoi. C'est important, hein, parce qu'il y a des associations ou des regroupements qui sont des lieux d'endoctrinement, et c'est facile avec des gens qui sont en phase de construction. Quand on est ado, post-ado, on a besoin comme ça de se rattacher à des idéaux. Il y a effectivement un militantisme fort qui fait partie de cette histoire. C'est une histoire vivante et qui a toujours été partagée, expliquée, quoi. Donc j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça. J'en étais même pleinement conscient et tout à fait favorable, quoi. Parce que c'est vraiment important. Parce qu'il n'y a jamais eu de la part de Jean, de Guy, de ces personnes qui étaient les moteurs de l'entité radio, d'endoctrinement et de volonté de dire fais ci, fais comme ça ou faut penser comme ça. Moi j'ai découvert ce que pouvait être la démocratie à Radio PFM, quoi. La démocratie idéalisée, quoi. Et ça m'a pas gêné du tout, non, pas du tout, quoi.
Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs de radio à PFM?
Mes meilleurs souvenirs, comme ça, à brûle pour point. Je sais pas, il y en a plein, c'est vraiment, je le redis, mais je pense que j'ai eu l'occasion de le dire à Jean et à Guy, qui sont des personnages qui comptent vraiment dans mon histoire, quoi. Il y en a plein, c'est comme ça, un truc, une sorte d'anecdote qui servira, parce qu'il en faut dans la vie de la radio, des anecdotes. Ils avaient installé Bertrand. Bertrand, c'est le pilier de la technique, quoi. Sans lui, Radio PFM n'existerait pas non plus, quoi. C'est-à-dire que lui, à la limite, sur l'aspect plutôt philosophie, esprit, etc., il a toujours été très engagé aussi là-dedans, mais d'une manière plus indirect ou peut-être plus distante, mais c'est un membre hyper important de Radio PFM. Il faut vraiment que son témoignage soit mis en valeur, parce que lui, il a fait tourner la boutique techniquement, quoi. C'est-à-dire, tous les autres, Bernard un peu quand même, il s'intéressait. Moi à la limite, ça m'intéressait un petit peu, mais Bertrand, lui, il a sauvé le truc. Et donc ils avaient installé un système de déclenchement automatique en cas de panne éventuelle. Et il se déclenchait par appel téléphonique. Et moi, j'étais à l'antenne, j'étais seul. Je faisais mon émission et d'un coup, un morceau de Police qui part de n'importe où, incroyable. Je ne savais pas d'où ça venait. la panique, le truc. Et en fait, c'était ce système-là qui s'était déclenché. Je crois que c'est Bertrand qui avait fait un test sans écouter ce qui se passait en direct. Ça, c'est un des souvenirs. Après, non, mais des souvenirs, j'en ai à l'appel, des conseils d'administration extrêmement mouvementés, avec des engueulades entre Bernard. Non, c'est des bons souvenirs. Non, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que cet exercice-là du projet, je parle beaucoup de projet parce que c'est mon métier aussi. Je m'occupe des affaires culturelles d'une commune et j'ai été chef de projet sur de la création d'équipements culturels. Donc c'est une notion qui me tient à cœur. Et à PFM, le conseil d'administration, ça a été lieu d'un débat qui était des fois long, un peu stérile, etc., mais qui était hyper constructif. Et jamais ailleurs, j'ai retrouvé une telle vivacité d'échange, quoi. Mais ça a été loin. Hein. Moi, je me souviens que Bernard, au début du lancement des relations avec les maisons de disques, Ferrarock, etc., fallait qu'on téléphone, fallait qu'on utilise le téléphone. Et donc, des engueulades sur les factures de téléphone et de la justification des portes qui claquent et je t'appelle après un peu pour dire excuse-moi et tout. Non, les autres bons souvenirs, le festival qu'on avait monté avec mon pote, mon pote François, enfin avec toute l'équipe de PFM, et nous on s'était plus occupé des soirées musique actuelle. On avait fait venir Asian Dub Foundation, c'était la première date officielle, la première date de leur tournée officielle en France avec Revolutionary Dub Warriors. On s'était bien marré, on avait fait ça, c'était super cool. D'autres, les Nuits Bleues, c'était assez marrant. Non, je sais pas.
C'était quoi les Nuits Bleues?
Les Nuits Bleues, c'était c'était une nuit complète, c'était les nuits de la radio en fait, où tous les animateurs se retrouvaient et animaient à tour de rôle l'antenne pour une nuit spéciale, un peu anniversaire de la radio, fête quoi, etc. quoi. À part ça, mes émissions quoi, surtout la deuxième émission que j'ai créée avec mes cousins, mes vrais cousins, hein, c'est pas mes cousins comme les jeunes des quartiers disent ouais cousins, non là c'est mes vrais cousins. Amaury et Guillaume, on a lancé le premier sound system de la radio, ça s'appelait Morba Sound System. Eux, c'est des férus de reggae. Moi, je suis plus hétéroclite dans mes goûts musicaux. J'étais plus branché hip-hop, électro, tout ce qui est plutôt musique noire américaine, quoi. Et puis, on a lancé notre premier sound system. Alors, on avait une heure et demie. Et puis, au fur et à mesure, avec des négociations et des longues palabres, on est réussi à passer au vendredi soir. Et là aussi, c'était une émission, je pense, qui a marqué des gens, quoi. Puisqu'on avait des appels, et puis il y a des gens. Et là, on a fait des nuits complètes. Ça nous a valu des ennuis avec les voisins, ça faisait trop de bruit. On venait avec les percus et tout, ça partait pendant des heures et des heures. Vraiment, on a fait des nuits complètes sur cette radio, à passer des disques. Bon, il y a des trucs que je peux pas dire parce que
balance.
Non, c'est prescrit, mais c'est vrai que on était étudiants là, donc il y avait l'alcool, machin, d'autres trucs. C'était quand même la fête, quoi. C'était vraiment la fête. On était enfermés dans le studio là, sur la grande place, et ça durait des heures et des heures. J'ai des souvenirs aussi de fou rire, des barres de rire, quoi, à l'antenne, comme ça. Enfin, ouais, plein de bons trucs. Ça me manque, hein, vraiment, ça me manque. J'ai moins le temps, mais on en parle même avec mes cousins. Vraiment, j'aimerais refaire de la radio. Je sais pas. Et ça se refera, mais je sais pas sous quelle forme. Peut-être qu'on montrera un truc ici. On en a déjà parlé à Bernard, récupérer une table, faire nos enregistrements, les envoyer. Mais on va y revenir, ouais. Je pense que j'y reviendrai. Tôt ou tard, j'y reviendrai. Là, c'est un peu compliqué avec la vie de famille, mais... on y reviendra, on le sait dans l'air du temps, quoi.
J'avais une question aussi sur... t'as amené un peu aussi ce qu'on appelle les musiques actuelles, hein. Ouais. T'as un peu élargi le spectre musical de la radio. Est-ce que ça... Là aussi, il y a eu peut-être des tensions. Je sais qu'à un moment, il y avait ce truc-là, cette idée, ouais, on est une radio rock, on veut pas que ce soit une radio rap. Enfin, c'était... Il y avait ce genre de discours qui traînait un peu dans certaines réunions.
Là aussi, c'est encore une histoire de rencontre et de débat, toujours, quoi. La notion de débat, elle est importante, hein, l'histoire de PFM. Et ça prouve une chose, c'est que sous une apparence comme ça, très fédératrice, etc., n'empêche que la musique ou les musiques sont pas forcément encore source de croisement et de rencontre. Donc forcément, je pense que, par exemple, les gars d'Easy Rider, mais aussi, ils ont été pionniers, quoi, parce que... Eux, ils ont inventé l'émission rock'n'roll, quoi. Avant que j'arrive, moi, je me souviens des émissions, c'était tordant, quoi. Et eux, peut-être qu'ils étaient très dans le rock et tout. C'était difficile, l'ouverture à d'autres formes musicales. Et pourtant, il y avait déjà des émissions de jazz, il y avait des émissions de musique africaine. PFM a toujours été traversé par différents courants musicaux, quoi. Mais sur la création d'une discothèque, quoi, là... Je vais tirer la couverture à moi, mais je pense que c'est la vérité. Donc je vois pas, j'ai pas d'honneur particulier à réclamer, mais c'est vrai que c'était dans le but. Moi, je voulais me démerder, quoi. Je voulais que je puisse avoir de la matière pour mon émission. Et je me suis dit aussi les bandes, parce qu'il y avait des bandes qui passaient à l'antenne. Donc là, c'est vrai que ça a été un peu, ça a toujours été un peu compliqué, quoi, avec Bernard, parce que. Lui voyait peut-être ça comme une remise en cause de son travail. Et c'est vrai qu'on passait des trucs quand même durs, quoi, ringards, quoi. Excuse, hein, Bernard, mais tu le sais, de toute façon, c'est pas une surprise, c'est ce que je pense, quoi. Des vieux Henri Salvador. Je dis ça en plus, Bernard, mais j'ai fait une compile de Henri Salvador pour mes filles. Comme quoi, tu vois, tout tourne, rien n'est jamais acquis. Non, il y avait une volonté de redynamiser la programmation, enfin mettre du neuf, de l'allant. Puis c'était l'époque qui voulait ça aussi. Il y avait une offre musicale qui devenait conséquente, plein de nouveaux groupes qui sortaient. Donc il a fallu se démerder. Et puis comment c'est venu ? C'est la Ferra Rock, c'est aussi des premiers contacts avec les maisons de disques. L'idée c'était de rejoindre ce réseau qui était quand même un réseau qui était identifié au niveau des maisons de disques. Et pour ça, il a fallu remplir un minimum de cahier des charges, participer à des réunions. Je me suis investi à fond dedans. J'ai passé des heures et des heures, des coups de fil. J'ai passé aussi, Bernard, je te le dis, tu le sais d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de coups de fil personnels de chez moi et tout. Ouais, j'avais la niaque, quoi. Je voulais que ça marche. Et puis, ça a marché. Ça n'a pas été facile. C'était une nouvelle culture pour les anciens, je vais dire, Jean et Guy. Et pourtant, ils n'ont jamais freiné. Jamais, jamais, jamais. Ils ont toujours fait en sorte que cette initiative-là, elle puisse s'exprimer. Et puis, j'étais volontaire, motivé. Et je pense qu'après, bah, ça a amené de nouvelles émissions, de nouvelles personnes. Je pense que la plupart des demandes ou des projets de radio, ils étaient essentiellement liés à la musique. Bon, après, il a fallu essayer d'organiser tout ça, quoi. Mettre un peu d'ordre, éviter que tout le monde prenne des disques n'importe quand. Bon, là, ça me branche moins, quoi. Ça me branchait moins. C'est vrai que Bernard, il était utile sur ça parce qu'il est très, très organisé, très carré. Et on a réussi au fur et à mesure à mettre de l'ordre. Ce qui était dur, c'est de fédérer des gens autour de ces tâches-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une plus-value réelle pour tout le monde. Tout le monde pouvait avoir de la matière. Puis c'est allé crescendo. Hein, on a commencé avec, je sais pas, 30-40 disques pour arriver à je sais pas combien on en a maintenant, 400, 500 par an. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée du chiffre de... 800 par an, ouais, c'est ça. Il y avait des semaines à 60, 70 par an. C'était compliqué parce que je voulais qu'on essaie de le faire le plus honnêtement possible. C'est-à-dire que les gens qui nous envoient les disques et ont un minimum de retour, ça n'a pas toujours été possible. Puis on n'avait pas non plus que de la merveille dans les oreilles, quoi. Mais fédérer des énergies autour de la vie de ce qui s'est appelé la commission 10, ça a été difficile, quoi. Ouais, ça a été difficile.
Ouais, voilà. Ce qu'il faut peut-être expliquer aux éditeurs qui n'ont pas forcément compris, c'est qu'avant, il n'y avait pas de disques qui arrivaient à la radio. Les gens se débrouillaient avec les disques qu'ils avaient, qu'ils achetaient. Ouais. Et puis, ce que tu as changé, c'est que tu as pris contact avec toutes les maisons de disques qui envoient gratuitement les disques. Alors, peut-être aussi une particularité c'est que c'est, de PFM, c'est que c'est géré, donc on garde tous les disques à la radio, c'est géré collectivement, alors que dans beaucoup de radios, c'est les animateurs qui se les mettent dans les fouilles. Ouais. Donc c'est quand même un truc qui n'a pas été facile, puis qui n'avait pas été sans accroc. Il y a eu pas mal de vols de disques aussi, quoi.
Il y a eu des vols de disques. Pour moi, à chaque fois, c'était un drame. Je t'assure vraiment, c'était un drame que je vivais super mal. Parce que... Alors, je vais pas dire, je suis pas à la Vierge Marie et tout. Moi, il y a ici des disques que j'ai récupérés parce que c'est des doublons. Je m'en cache pas, hein. Il n'y avait pas eu de problème à ça. Le vol de disques caractérisé, c'était vraiment spolier. Je parle comme Arlette Laguiller, mais c'était aussi trahir l'esprit de Radio PFM. Et pourquoi il me semblait important qu'il y ait une discothèque à Radio PFM? Parce que c'est aussi. un bien collectif, mais c'est aussi une matière qui sert au quotidien pour qui que ce soit. Et donc, c'était bien aussi que une radio sans discothèque, c'est ce qui va se passer. Les discothèques, elles seront sans doute sur des disques durs. Bon, moi, je suis déjà dans la vieille catégorie. Je rachète des vinyles, c'est pour dire l'état d'esprit dans lequel je suis, quoi. Mais c'est important qu'une radio, elle ait des outils physiques et qu'elle puisse avoir cette matière-là autour d'elle. Ça fait partie du décor, etc. Ça fait partie de la vie à part entière de la radio. Et le fait que il n'y ait pas eu de disques qui étaient... Certains animateurs avaient des contacts avec des labels. C'est vrai qu'il y avait des exceptions qui justifiaient. Olivier, par exemple, il était très branché sur, à une époque, puisque ça a varié, je pense, après, très branché sur le garage rock, etc. C'était un créneau très précis. Et c'était légitime que ces disques-là, il les garde, parce que de toute façon, ça viendrait amplifier le volume de disques à disposition. Bon, c'était une exception qui confirme la règle, mais globalement, c'était important qu'il y ait un bien collectif, et c'était dans ce sens-là que moi je l'ai fait. Vraiment, c'est pas pour me tirer des lauriers. Des fois, je vois, bah, tu me connais, de toute façon, tu dis, vas-y, donne-le-moi ce disque-là et tout. Et puis, bon, et bah, des fois, il y avait des doublons, et puis après, on a eu plein d'opérations et tout. Fallait éviter qu'on tombe dans le marketing, quoi. Fallait qu'on soit réaliste. Et c'est pour ça que moi, à la fin, il y avait la lassitude, il y avait ma vie qui devait continuer ailleurs, mais aussi un changement de mentalité au niveau de l'affaire Rock, où ça devenait trop industriel, quoi. On voit ce que ça a donné comme conséquence, hein, avec l'avènement du numérique, etc. Et donc, je pense que l'affaire Rock, elle a dû se recalibrer sur des projets d'accompagnement de groupes en émergence réelle, quoi. C'est-à-dire, ça m'a fait chier. C'est pour ça qu'à la fin, j'en avais marre, l'affaire Rock, et des relations avec les maisons de disques, parce que ça devenait exponentiel. Et à la limite, on passait des trucs sous prétexte de la nouveauté, sans avoir une vraie politique de programmation, quoi. Ouais, si tu voulais dire, peut-être.
Ouais, en fait, je voudrais juste, si c'était possible, qu'on explique ce que c'est que l'affaire Rock.
Ouais. Bah, l'affaire Rock, c'est ça veut dire texto, hein, la Fédération des radios associatives rock. C'est tout simple, hein, c'est une série de radios associatives du même acabit que Radio PFM qui, en 91, se sont rendues compte que elles travaillaient chacune de leur côté et qu'il y avait peut-être utilité de fédérer un réseau à la fois pour monter des projets. C'était ça l'esprit des départ, accompagner des groupes, valoriser des groupes entre les régions, etc. Et puis aussi être une force de poids par rapport aux maisons de disques, quoi, et de faire reconnaître la spécificité des musiques qui passaient. Ça participait d'un l'affaire Rock, ça participe d'un mouvement plus global qui était la volonté de la plupart des acteurs, et puis des jeunes, quoi, de cette époque-là, et toute une génération aussi qui existait avant, de faire reconnaître ces musiques. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas lieu pour les musiques actuelles, quoi. Il y avait des zéniths, enfin, il n'y a pas de zénith. Les zéniths, c'est Lang qui met en place le truc. Mais les salles comme l'Aéro, l'Ubu, Arène, le Transborder, c'est les trois salles historiques qui ont constitué le paysage des musiques actuelles, la diffusion des musiques actuelles. Et donc, il y a eu un bouillonnement, quoi. La France, c'est un pays qui a une culture musicale incroyable, aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est une terre de croisement, c'est une terre... c'est peut-être moins important en matière de culture musicale que l'Angleterre, les États-Unis ou le Japon, peut-être même l'Allemagne, et ça va pas aller de mieux en mieux, malheureusement, avec les choix qui sont faits actuellement. Je dévie un peu, mais c'est pour te dire que l'affaire Rock, c'était un mouvement d'acteurs militants aussi, d'une autre façon, mais finalement, la philosophie de l'affaire Rock et la philosophie de PFM étaient parfaitement compatibles, quoi. Donc, c'est une fédération de radio qui a permis de devenir un poids vis-à-vis des maisons de disques et de mettre en place tout un tas de ce qu'on appelle des opérations pour dire, bah, OK, vous travaillez sur tel ou tel artiste. Nous, a priori, on aime bien, on va développer avec vous. Voilà, quoi. Ça a surtout servi aussi aux maisons de disques. Et on s'en est rendu compte, ça aussi, pour peut-être les jeunes générations de maintenant, ils ne se rendent pas compte parce que l'offre de musique actuelle, elle est plus diversifiée, il y a le Move, bon, c'est pas terrible comme radio, surtout que c'est une radio de service public, mais on peut entendre des musiques qu'on n'entendait pas à l'époque, quoi. C'est-à-dire, à part sur nos radios associatives, qu'elles soient faire un rock ou pas, on n'entendait pas de métal, de rock indé, de rap très peu... une forme de soupe standardisée, quoi. Aujourd'hui, ça a changé, le paysage s'est diversifié parce que certains groupes, Pixies, Radiohead, sont devenus des vendeurs énormes. Donc, il y a un potentiel de truc. Nous, on a servi de laboratoire pour l'industrie du disque, ça, c'est sûr, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, on va tester tel artiste. Il faisait le test chez nous, quoi. C'était pas très difficile, hein. Ils nous envoyaient des t-shirts. C'était la fête pour nous. On était contents. On offrait des t-shirts à nos... Et voilà, au bout d'un moment, c'est devenu presque trop. Et donc, on perdait... Moi, j'ai trouvé qu'on perdait le sens du truc, quoi. C'est-à-dire que la fédération, elle était devenue... elle voulait se positionner vraiment comme un acteur dans la logique industrielle. Moi, je tenais à ce qu'on... On reste aussi indépendant et que, surtout par rapport aux valeurs qui m'ont permis de développer tout ça, c'est-à-dire les valeurs de PFM, ça collait plus, quoi. Il y avait, personnellement, moi, ça collait plus. Et puis, j'avais besoin de passer la main, quoi. Voilà.
Est-ce que tous ces contacts avec les maisons de disques, hein, ça t'a aidé aussi pour ce que tu fais maintenant en...
Ah ouais, ouais. Non, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure... enfin que j'évoquais tout à l'heure, non, PFM c'était une expérience structurante
Ouais, je parle au niveau plutôt personnel, bon, ouais, tu l'as dit, mais professionnel.
Je veux dire, j'ai outre l'apprentissage de la vie en collectivité, c'est important, l'école le fait plus, quoi. J'ai aussi appris là-bas à monter un projet de briquet de broc, système 2, et puis je reste attaché encore à ce système-là, ce qui me vaut pas que des sympathies dans un contexte purement administratif, très administratif. Comme le contexte dans lequel je travaille, c'est-à-dire une mairie. Ça m'a appris, la radio, elle m'a appris aussi, forcément, comme je te le disais, à mettre en place un projet. Et donc après, j'ai fait des études de sociaux. Et ensuite, j'ai fait des études de sciences de l'information et de la communication. Donc il y a une influence réelle, c'est indéniable. La radio, c'est aussi un outil de communication. Et puis surtout, à l'époque où j'étais étudiant, j'étais à fond dans l'affaire Arog. Donc ça, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait partie de plein de trucs. Le jury du Printemps de Bourges. Moi, j'étais dans les musiques actuelles. Ça fait rire Guy à chaque fois qu'il me voit. Il me dit « Alors, t'es toujours dans les musiques amplifiées, actuelles et tout ?» Et j'ai même fait mon mémoire de DEA que j'ai pas soutenu. Enfin, je suis pas allé au bout parce qu'après, j'ai travaillé dans une structure sur les projets liés aux musiques amplifiées. Là, j'ai été embauché par la... Donc après, j'ai travaillé dans une asso qui organisait des concerts à Tourcoing. Donc c'était lié directement avec mon histoire à PFM. Là, je m'occupe des affaires culturelles. Je suis responsable des affaires culturelles de la ville de Comines. Mais j'étais embauché pour mettre sur pied un lieu de musique actuel, quoi. Qui s'appelle le Nautilus, qui est un lieu de résidence, etc., où on accueille des groupes en résidence. Donc ouais, c'est indéniable, quoi. Mais je voudrais pas que... vous pensez ce que vous voulez, mais en fait ce qui m'importe, c'est aussi dire que mon développement personnel, enfin je sais pas comment dire, mon expérience ou les compétences que j'ai pu acquérir, elles se sont pas limitées juste au créneau dans lequel j'étais, la musique, quoi. Elles se sont aussi développées grâce à l'apport des conseils d'administration, des concerts qu'on a pu organiser, de tout un tas de choses, quoi. Radio PFM, c'était, ouais, fondateur, vraiment, c'est une expérience fondatrice qui est gravée pour plein de raisons dans ma vie, quoi.
Alors peut-être, comment tu vois maintenant cette radio ? Bon, alors tu peux plus écouter, hein, mais comment tu suis un peu cette radio
J'interviens encore dans l'émission de Bernard, puisque je fais... ouais, j'ai oublié de te dire aussi que je fais des piges pour différents canards, des différents magazines. Je fais toutes les pages concerts de sortir. Je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, parce que c'est un peu prenant, et puis surtout par honnêteté, parce que j'ai plus le temps d'aller au concert. Donc je préfère en ce moment faire plus de la chronique de disques ou du papier de fond. J'écris aussi pour de temps en temps, moins régulièrement, pour Presto. Là, je suis rentré à Presto aussi grâce à PFM. Et puis aussi pour un petit magazine qui s'appelle Coton-Tige, quoi, en fait. Et comment je vois la radio ? Je la vois surtout par les interventions que je fais dans l'émission de Bernard, la Variation. Et puis surtout... après, j'en ai une image. Des fois, je me balade sur le site, je vois une radio qui continue à être assez active. Je pose souvent des questions à Bernard. Il me semble qu'il y a un renouvellement de génération qui continue, donc c'est bien. Il y a des gens qui restent et c'est super bien. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne sais pas, parce qu'avec la dématérialisation de tous les supports, est-ce que demain... PFM a un avenir face à la concurrence du net, enfin des radios. Ben, en fait, PFM, c'est un acteur culturel et social pour Arras. Moi, par exemple, c'était un acteur culturel, ça m'a ouvert les portes à plein de choses, quoi, parce que j'ai rencontré plein de gens. Je pense que c'est important que cet acteur, il existe. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de projet, comme je te l'ai dit. Il faut que c'est un espace public à lui tout seul. Radio PFM, c'est un lieu de maillage incroyable. Et donc, la dématérialisation, le net, le fait pas, ça. Les gens, ils se rencontrent pas réellement. Ils font pas des choses ensemble. Ils parlent ensemble. Je pense que c'est important que l'espace physique, l'antenne, les outils, tout ça, ils perdurent, bien sûr. Et je me fais pas trop de soucis par rapport à ça, quoi. Il se pourrait même que les choses changent et qu'on redevienne très intéressé par ces médias qui deviennent alternatifs, qui sont alternatifs par la base et qui doivent le rester, quoi.